Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, pour terminer ce soir cette émission un peu spéciale consacrée à la Chine, avec exceptionnellement nos invités, nos chroniqueurs qui ne sont pas deux mais trois et même quatre, qui participent au club de la presse numérique. Nous retrouvons donc Emmanuel Paquet de L'Express, Pierre Aski de L'Obs et Gilles Fontaine de Challenge, avec Stéphane Distinguin qui est resté parmi nous et Zoé Sfez également. Après avoir longuement parlé de la Chine numérique et technologique dans la première heure de cette émission, on s'intéresse dans cette dernière partie à la présence en France des grandes entreprises chinoises du secteur des technologies. Quelle forme prend leur présence sur le territoire? Qui les utilise? Quels sont les risques et les avantages? Quel est le potentiel de développement économique de ces entreprises? C'est le sujet de ce club de la presse numérique. On commence avec vous, Pierre Aski, et vos expériences commerçantes du week-end, pour ne pas les citer, aux Galeries Lafayette. Ou...
Non, mais c'est vrai ce qui était dit juste avant. L'arrivée de centaines de milliers ou de millions de touristes chinois en France a changé la donne, et aujourd'hui vous allez dans un grand magasin parisien le week-end, vous avez à peu près un tiers de clients qui sont chinois et qui payent avec Alipay ou WeChat Pay comme s'ils étaient à Pékin ou Shanghai. C'est rentré dans les mœurs et c'est aujourd'hui accepté, et c'est vrai que ça a permis à ces systèmes d'être autorisés légalement en France et donc d'être mais après le WeChat, moi j'ai WeChat dans mon téléphone, une application française, enfin en français, qui permet, il y a quand même près d'un million de Chinois français qui utilisent énormément cette application, et donc il y a une vraie présence aujourd'hui de cet écosystème en France. Il n'est pas grand public parce que il n'a pas d'intérêt. Effectivement, il ne va pas remplacer aujourd'hui WhatsApp ou Facebook qui sont dominants, mais il existe.
Emmanuel Paquet, revenons peut-être à Huawei également, qui est dans l'actualité cette semaine. Alors, on a parlé dans le volet international, mais quid en France, puisque beaucoup de gens utilisent Huawei, ne serait-ce que pour leur smartphone.
C'est vrai qu'aujourd'hui, l'implantation de Huawei en France, elle est forte. Déjà, d'une part, parce que ils ont des laboratoires en France, notamment qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Donc, ils ont une présence forte. Ils ont tissé des liens avec pas mal d'universités. Donc, ça, c'est pour la partie entreprise. Pour la partie grand public, c'est vrai qu'aujourd'hui, les téléphones Huawei sont alors numéro 3, numéro 2 du marché.
La part de marché, c'est quoi, 10% contre quoi, 30% pour Samsung?
Pour le marché français?
Oui.
Normalement, c'est Samsung le numéro 1. Normalement, Apple est numéro 2. Alors là, j'ai pas encore les chiffres.
Il serait numéro 3, c'est ça?
Il serait numéro 3, ouais, très probablement sur le marché français. Alors, il y a un autre chinois qui est arrivé en même temps que Xiaomi l'année dernière qui s'appelle Oppo. Donc, ce sont des nouvelles marques qui arrivent. Donc, on va voir aussi si elles arrivent à se faire un peu une place face aux trois géants. Donc, et Huawei surtout commence à monter en gamme avec des terminaux qui maintenant ressemblent de plus en plus à un iPhone. Certains trouvent que même pour
ça ressemble
derniers,
un peu trop, oui.
Un peu trop, voilà.
Ce qu'on appelait les fameux copycat aux États-Unis, qui critiquaient la copie simplement par
exactement.
Les Chinois.
Et soit dit en passant, en France aujourd'hui, le premier prix que j'ai sur moi, c'est un Huawei, il est à 99 euros. Et c'est
oui,
un
c'est
téléphone
sûr. Alors après...
qui ressemble tout à fait aux iPhones que vous achetiez il y a 5 ans.
Alors après, ils ont une autre marque Huawei très entrée de gamme qu'on voit un peu en France, qui s'appelle Honor, je crois, de mémoire.
Honor, ouais.
C'est ça, exactement. Et là-dessus, ils font énormément de volume. Donc, c'est pour ça que ça leur permet d'arriver en numéro 3 du marché. Peut-être bientôt numéro 1 en 2020, hein, comme c'est aujourd'hui leur cible. Et il faut voir que derrière Huawei, surtout, ils veulent aller sur plein d'autres terminaux. Donc, les tablettes, ils avaient fait des tentatives à un moment donné. Mais maintenant, ils veulent rentrer sur le marché des téléviseurs. C'est une des dernières annonces qu'a fait le groupe. Donc, ils vont prendre une empreinte de plus en plus importante dans l'électronique grand public au sens large sur le marché européen. Et notamment en France.
Gilles Fontaine.
Oui, ils sont rentrés en fait sur le marché des terminaux Huawei un peu plus tard. Hein. Ils ont un peu plus tard que les autres et un peu par hasard. En fait, c'est les opérateurs télécoms qui leur demandaient de commencer à développer des gammes de terminaux. Et on se souvient que Bouygues Télécom, il y a déjà une quinzaine d'années, était parmi les tout premiers opérateurs français à utiliser du matériel chinois, du matériel Huawei pour ses réseaux. SFR également, et les opérateurs ont demandé effectivement à Huawei de développer ces terminaux au départ des terminaux plutôt abordables, bon marché, qui pouvaient proposer aussi à leurs abonnés et puis développer un système de rétention derrière. Les deux opérateurs français que je viens de citer, SFR et Bouygues Télécom aujourd'hui, ou jusqu'à présent étaient les deux seuls à utiliser ces matériels en France. Orange et Free se sont toujours abstenus, même si Orange l'utilise abondamment ailleurs à l'international. Par contre, sur les premiers tests 5G, Orange a commencé à déployer plusieurs dizaines de bases 5G de tests avec du matériel chinois, de façon très discrète. Et on sait que la Fabienne Dulac, la patronne d'Orange France, a effectué tout récemment un voyage discret à Shenzhen pour commencer à discuter de la suite des événements.
Sur ce sujet, Emmanuel Paquette, Huawei est également en lice pour déployer la 5G en France dans les mois à venir et les années à venir. On le disait à l'instant, les Américains font aujourd'hui pression sur les Européens pour qu'ils choisissent d'autres prestataires.
Oui, alors il y a déjà en fait un message tacite qui est passé par le gouvernement, alors tacite et implicite, qui est de dire aujourd'hui vous n'utilisez pas de réseau 5G en test, et même de réseau 5G tout court, sur l'Île-de-France. Et interdiction d'utiliser des routeurs Huawei sur l'ensemble de la France. Alors l'idée, c'est de dire que l'Île-de-France, c'est là où il y a la majorité des décisions politiques et économiques qui sont prises. Et donc, on peut déployer de la 5G Huawei en dehors de la capitale et de l'Île-de-France, mais pas dans l'Île-de-France. Alors, un opérateur, dont je ne citerai pas le nom, s'est fait taper les doigts, justement, pour avoir commencé à déployer...
Moi, je peux le citer, SFR.
Voilà, ça. Exactement. Donc, alors, c'est public, hein, donc je peux le dire aussi, mais et c'est vrai que c'est... C'est vrai que ça pose encore des problèmes, mais c'est vrai que tout ça est tacite, pas explicite. Et donc c'est vrai qu'avec la loi Pacte et l'amendement qu'on attend justement qui devrait passer, ça devrait mettre sur la table des choses qui sont déjà plus ou moins, pour l'instant, faites dans. Mais dans l'invisibilité la plus totale.
En fait. L'histoire d'Emmanuel est tout à fait incomplète parce que en réalité le matériel a été déployé place Ballard, le siège d'Altis SFR, qui a pour
en face
voisin
du ministère de la Défense,
le ministère voilà. des Armées, et ouais. les militaires ont moyennement apprécié.
Ouais, pas très loin non plus du siège de France Télévisions, mais juste il y avait cette histoire d'autorisation préalable parce que je crois que la difficulté c'est qu'en même temps ils peuvent pas véritablement en France on ne peut pas faire du protectionnisme et donc viser explicitement les Chinois parce que c'est exactement ce qu'on leur reproche.
Oui, exactement. Donc là, le système est un peu plus soux. Donc dans l'amendement Pacte, c'est de dire que tous les équipements devront être certifiés par l'ANSSI, donc l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Et si ces systèmes sont certifiés, alors les opérateurs télécoms pourront les déployer. Alors là, les opérateurs télécoms ne sont pas contents parce qu'ils disent que ça va prendre du temps d'obtenir cette certification, que ça semble être coûteux aussi parce que ça peut se répercuter sur le prix final, même si pour l'instant ça c'était pas vraiment clair. Mais donc on voit des situations et des demandes qui sont un peu opposées entre d'un côté les opérateurs qui veulent aller vite et le gouvernement qui veut prendre du temps et mettre en place un système de certification.
Malin le Gaulois, hein, Pieraski.
mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe à l'échelle de l'Europe, c'est le reflet de la relation complexe que l'Europe avec la Chine et le Huawei vient de signer par exemple avec Portugal Telecom et le Portugal est un des destinataires principaux des investissements chinois. Le Portugal a défendu plusieurs fois la Chine dans les conseils européens sur les questions d'investissement et donc on voit bien que les 27-28 n'ont pas une position commune. Il y a eu cet incident récemment en Pologne où deux cadres de Huawei Pologne ont été arrêtés pour espionnage, dont un chinois et un polonais. Donc on a une diversité de situations et on va se retrouver avec une Europe où certains pays auront du matériel chinois, d'autres pas, ce qui complique évidemment la question sécuritaire.
Revenons sur la France qui est le sujet de ce club de la presse numérique. Il y a aussi un exemple très précis, et en l'occurrence ça concerne Xiaomi, à savoir l'ouverture sur les Champs-Élysées, Emmanuel Paquette, d'un magasin.
Oui, et juste quelques mois après l'ouverture d'un Apple Store, justement. Donc, on voit aujourd'hui que Xiaomi se veut se mettre dans la roue d'Apple. D'ailleurs, même le design du magasin ressemble à s'y méprendre à celui d'un Apple Store, c'est-à-dire très blanc, épuré, avec quelques meubles et la présentation des produits sur certaines planches à disposition.
Des tables, oui.
Des
tables,
pardon. Des tables, c'est mieux, oui.
Les Chinois, ils peuvent mettre des tables aussi.
Mais donc, on voit la même volonté de distribution dans des magasins haut de gamme, justement pour donner une image haut de gamme des terminaux qui sont proposés par Xiaomi.
Je Je pose la question à Stéphane Distinguin, puisque nous l'avons sous la main, qui est par ailleurs aussi le fondateur de Capdigital. Vous êtes là à double titre, c'est intéressant. Les gens avec qui vous travaillez, vos collègues,
les startups françaises,
les gens de la tech, comment concrètement, si vous pouvez nous donner, pas des noms, mais une espèce de feeling général, comment ils regardent, comment est-ce qu'ils font? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est là où ça se passe. Il y a de la défiance, il y a de l'envie de travailler avec. Ça se passe comment concrètement? Les approches entre la tech française et la tech chinoise, s'il y en a?
Elles ne sont pas structurées à date. C'est-à-dire qu'on continue toujours à avoir cette frontière avec la Californie. Je pense qu'en Europe, on n'est pas encore... Je pense que l'écosystème français n'a pas encore travaillé suffisamment sa relation avec la Chine.
Bah oui. Il regarde vers l'Ouest et non pas vers l'Est.
Bah toujours, toujours. Alors après ça, il y a évidemment des contre-exemples. Je me pose la question de savoir s'il est tout à fait opportun pour ces startups de regarder la Chine quand on voit quelles sont, enfin, comment ça marche, comment ça fonctionne. Est-ce qu'elles ont autre chose à faire justement que d'arriver dans WeChat? En revanche. Les acteurs chinois sont d'énormes investisseurs dans les startups aujourd'hui, parce qu'il faut, on parlait tout à l'heure de Tencent, qui est quand même le premier investisseur au monde, en fait, dans des licornes devant Alphabet, Google, aujourd'hui.
Y compris donc sur la tech française.
Alors, on en a malheureusement trop peu pour tout à fait les intéresser, ce qui est une façon de vous répondre sans faire une pirouette, mais c'est qu'on a aussi, nous, besoin d'être plus importants de façon à plus les intéresser.
On observe aussi des rachats, je pense à Tencent, leader mondial du jeu vidéo, qui est présent notamment au sein d'Ubisoft, Emmanuel Paquette, et avec aussi des perspectives de créer des alliances et des accords, par exemple avec Spotify, qui n'est pas un Français, mais en tout cas qui est un géant de la musique européenne.
En tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on a vu une guerre franco-française entre Ubisoft et Vivendi, qui essayait de prendre la majorité du capital, et que c'est finalement... Ubisoft a gagné cette guerre, mais a remplacé Vivendi par un Chinois, donc en l'occurrence effectivement Tencent, qui est rentré au capital. Et donc aujourd'hui, c'est un des plus grands acteurs mondiaux du jeu vidéo, hein, comme on l'a dit en début d'émission, puisqu'ils détiennent Supercell, ils détiennent aussi une partie, enfin 40% du capital d'Epic Games, hein, donc derrière c'est Fortnite, etc. Et puis c'est le moteur Unreal qui est utilisé dans la plupart des jeux de combat que les joueurs peuvent utiliser. Et puis c'est League of Legends, donc le plus grand jeu en ligne aujourd'hui, qui est développé par un Coréen qui s'appelle Riot Games. Donc aujourd'hui, Tencent sont vraiment très très forts dans l'industrie du jeu vidéo, y compris en Europe où ils investissent dans des studios.
Gilles Fontaine.
Oui, et pour ajouter à ce que vient de dire Emmanuel, Tencent c'est aussi Tencent Music, qui est un Spotify chinois, mais un peu plus gros encore, qui s'est introduit en bourse à la fin de l'année dernière, valorisé à peu près à la hauteur de Spotify. Et les dernières rumeurs veulent que le groupe pourrait aussi s'associer, peut-être prendre une part du capital d'Universal Music, le numéro un mondial de l'éditeur d'édition musicale, propriété de Vivendi aujourd'hui.
Stéphane Distinguin.
Moi, ça me marque énormément de voir justement la culture populaire des adolescents aujourd'hui, elle est marquée par ces produits.
Alors même que tout le monde était japonais il y a 15 ans, aujourd'hui, on est chez nous.
C'est fascinant, c'est le ByteDance, Musical.ly, TikTok. Enfin, c'est que petites filles et petits garçons, donc de Musical.ly, TikTok jusqu'à Fortnite. En fait, c'est des produits chinois en fait, qui les occupent des heures et des heures par semaine.
Avec ça, Pierre Aski, Xi Jinping arrive en France dans quelques semaines.
Oui, il arrive le mois prochain, en fait. C'est le retour du voyage qu'avait effectué Emmanuel Macron l'an dernier en Chine. Et à un moment, justement, assez crucial, où ses relations avec les États-Unis sont en pleine guerre commerciale, guerre autour de Huawei, etc. Et les Chinois essayent d'obtenir une certaine neutralité de l'Europe dans cet affrontement entre les deux géants. Et ça sera intéressant de voir comment se passe cette visite. Je pense qu'Emmanuel Macron est très méfiant vis-à-vis de la Chine. Il avait prononcé le mot de réciprocité lorsqu'il était en Chine, qui est un peu son mantra dans les relations avec la Chine. C'est-à-dire que tout ce que peut faire la Chine en Europe doit être possible pour les entreprises européennes.
Pour l'instant, on en est loin.
Ce qui n'est pas le cas. Aucune entreprise européenne ne peut racheter une entreprise de technologie de pointe chinoise aujourd'hui. Et donc, il y a cet enjeu majeur. Donald Trump a sans doute fait l'erreur de se lancer dans cette guerre à la fois commerciale et technologique contre la Chine en méprisant et en attaquant aussi l'Europe, alors qu'il aurait pu trouver en Europe des alliés parce que les Européens partagent les griefs sur les les relations commerciales et technologiques.
Parce que c'est un marché de 500 millions, enfin 300, 400 millions d'habitants, je ne sais plus combien d'ailleurs, mais beaucoup en tout cas. Et donc
500
millions. Voilà.
Et en fait, on est pris, et ça sera l'enjeu de cette visite, on est pris dans cette contradiction majeure entre ne pas vouloir se priver du marché chinois qui reste un enjeu absolument majeur, et en même temps protéger nos intérêts à la fois commerciaux et sécuritaires. Et donc la voie est extrêmement étroite entre les deux.
Pour terminer, Emmanuel Paquette, un exemple, AliExpress, et là on voit que c'est aussi une manière de concurrencer Amazon sur le sol même de la France.
Oui, exactement. Et puis l'agressivité de ces acteurs-là va peut-être aussi devenir un peu plus importante avec le ralentissement de la croissance chinoise. Si effectivement elle se confirme, les acteurs chinois vont devoir trouver des relais à l'extérieur de leurs frontières. Et donc on est peut-être qu'au début, au démarrage de l'agressivité de ces acteurs-là.